Pôle emploi a aidé beaucoup d'entrepreneurs à lancer leur business. Et Pôle emploi a aussi lancé ses propres startups d'État. L'une d'entre elles, La Bonne Boîte, a aidé plus de 120 000 personnes à retrouver du travail. Et Éric Barthélémy était à l'origine du projet et nous raconte comment il s'est développé. Bienvenue sur Oser puis d'oser, le podcast qui raconte les histoires d'entrepreneurs qui ont lancé de nouveaux business. Je suis Franck Deban, cofondateur de Tango, cabinet de conseil en innovation et hôte de ce podcast. Chaque épisode, nous recevons un invité, une histoire et une entreprise. Aujourd'hui, je reçois Éric Barthélémy de Pôle emploi. Bonjour Éric.
Bonjour Franck.
Tu vas bien ?
À pleine forme.
Alors, tu viens de loin ?
Exact. Oh, de loin, non. Metz, c'est pas non plus le bout du monde. Hein.
Oui.
Voilà, pour les Parisiens, c'est peut-être après le périph', donc ça fait loin, mais non, c'est tout près.
Ça va, bienvenue, écoute. Alors, La Bonne Boîte.
Oui.
Le projet que tu as lancé, que tu as développé, comment ça s'est passé au début ?
Exactement. Donc, il faut remonter déjà à 2015, hein, puisque le début de l'aventure de La Bonne Boîte, c'était 2015. À l'époque, j'étais toujours salarié de Pôle emploi. Et Pôle emploi a initié ce qu'on appelle un programme d'intrapreneuriat. Donc, pour lancer ce programme, il s'est appuyé effectivement sur l'ensemble de ses salariés, donc du conseiller Pôle emploi jusque, pourquoi pas, au directeur général s'il le souhaitait. Et donc, il y a eu un programme qui a été lancé sur l'intranet de Pôle emploi en disant, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est confronté quotidiennement à une difficulté et qui a peut-être une idée numérique pour passer cette difficulté. Et donc, j'ai postulé à ce programme et j'ai présenté effectivement une idée pour favoriser le retour à l'emploi des personnes, notamment en les aidant à aborder ce qu'on appelle le marché caché.
D'accord. Okay. Donc, c'est ça ton idée, aborder le marché caché.
Exactement. Parce qu'effectivement, la recherche d'emploi, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, en fait, la recherche d'emploi, elle est souvent dite cachée. C'est-à-dire que la majorité des employeurs, ils ne vont pas déposer une offre d'emploi sur un site internet, ils ne vont pas déposer une offre d'emploi dans un journal, par exemple. Quelquefois, on voit, ils mettent une affiche directement sur leur vitrine, ou le plus souvent, en fait, c'est par le biais du réseau ou par le biais des candidatures spontanées qu'elles reçoivent, qu'elles recrutent. Et quand on est chercheur d'emploi, ben, c'est pas évident de savoir où envoyer sa candidature. Alors on pourrait se dire, je vais prendre l'annuaire et je vais envoyer à toutes les entreprises, mais c'est très déceptif parce que si j'envoie 100 candidatures, je vais peut-être avoir 10 réponses et au mieux un entretien. Donc au bout d'un moment, on se lasse et puis on se dit, bah, ça ne marche pas et je ne vais faire que répondre aux offres. Et là, eh ben, on répond qu'à grosso modo 25% du marché.
D'accord.
75% du marché de l'emploi, il est dit caché.
Ok. Donc l'idée, c'était ça. Et comment est-ce que tu concevais le produit ? Tu avais déjà une idée de nom et comment...
Pas du tout. Alors, je n'avais pas d'idée de nom. J'avais une idée du produit. Et c'est la force du programme Startup d'État. C'est que mon idée ne s'est pas traduite dans les faits, puisqu'on a fait quelque chose d'un petit peu différent. L'objectif est resté le même. Mais moi, mon idée que j'ai pitchée à l'époque, ouais, c'était de dire il faut mettre en place un réseau social pour aider les entreprises et les demandeurs d'emploi à communiquer.
Voilà. D'accord.
Et puis, en confrontant cette idée à la réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus simple à faire. Un réseau social, c'est lourd, il faut que les gens s'inscrivent, il faut que les gens aient envie de discuter. Non, il y a peut-être plus simple à faire, c'est pourquoi pas utiliser la puissance des maths, concrètement, des algorithmes, pour se dire, puisque à Pôle emploi, on récupère les informations sur les recrutements du passé. Voilà, on sait toutes les embauches qui ont eu lieu. Hein, peut-être que pour ceux qui sont un petit peu initiés, on a une déclaration obligatoire quand on embauche quelqu'un. Et nous, on récupère à Pôle emploi ces informations-là. Donc, on est capable de dire, par exemple, ce mois-ci, il y a eu 1 million de déclarations d'embauche. Voilà. On récupère toutes ces données-là. Et puis, les mathématiques font le reste, si je puis dire. Donc, les maths sont capables de dire, tiens, ces entreprises-là, on constate sur les 5 dernières années ce qui s'est passé, et on va être capable de prédire est-ce qu'elle devrait embaucher dans les 6 prochains mois ou pas.
D'accord.
Donc, on est passé d'une idée qui était de dire je vais créer un réseau social à un service qui paraît simple, qui est de mettre simplement en visibilité une liste d'entreprises susceptibles de recruter.
D'accord. Avec le type de poste
Exactement. Donc là, il y a eu un autre travail. Et effectivement, La Bonne Boîte utilise en réalité deux algorithmes. Mais là, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, on est capable de prédire à la fois est-ce qu'elles vont embaucher et sur quel poste elles vont embaucher. Et donc, il suffit de mettre un lieu géographique, par exemple Paris dans le premier ou dans le troisième, et de mettre un métier, et on va être capable de dire, ben voilà, sur ce métier, sur ce secteur géographique, tu devrais envoyer une candidature spontanée ici. C'est ces entreprises-là qui ont le plus de chances de te recruter.
D'accord, d'accord. Et comme ça, vous avez aidé à peu près 120 000 personnes à retrouver un emploi.
Exactement. Donc, on est capable de suivre la vie, on va dire, de nos utilisateurs, parce que certains se connectent. Donc, on est capable de voir ce qui se passe pour eux. Et il y a eu, depuis la création du service, 120 000 personnes qui ont retrouvé un travail grâce à la bonne boîte. Alors, c'est imperfectible, c'est certainement plus, mais ce qu'on est capable de dire, c'est que avant d'être embauché dans cette entreprise, on sait qu'il a consulté la page sur la bonne boîte, donc il y a une forte présomption.
D'accord, ok, ok. Ah, super, super. Ouais. Et alors, ça, c'est aujourd'hui comment ça fonctionne. Et donc, toi, quand tu arrives avec l'idée, par quel process tu es arrivé pour construire cette idée, lui donner vie et au sein de Pôle emploi, comment ça s'est passé?
Oui, parce qu'effectivement, moi, au départ, en 2015, j'étais conseiller à l'emploi. Donc, comme on peut imaginer, je recevais des demandeurs d'emploi, je les aidais à construire leur parcours professionnel, à faire un CV, à les orienter. Ouais. Ça, c'était mon quotidien, en fait. Hein. Ouais. Donc, je ne sais pas construire un produit numérique, je ne sais pas quelles sont les étapes. Et donc, en commençant le projet, effectivement, j'ai été accompagné par deux personnes importantes. C'est un coach, donc là, qui a été mis à disposition par ce qui s'appelle aujourd'hui la DINUM, donc le programme Beta.gouv, qui porte plusieurs startups d'État dans plusieurs structures. Mais là, vous avez déjà rencontré des personnes de Beta.gouv, je présume. Et cet accompagnement, naturellement, il se fait également avec un développeur, puisque l'idée, c'est de faire un produit numérique. Et moi, le code, j'y connais rien, quoi, en fait. Hein, à part des 0, des 1, bon, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai été accompagné par ces deux personnes-là dès le début du projet.
Et donc, tu arrêtes ton boulot de conseiller
à 100%. Je suis mis, Pôle emploi me dégage complètement de ma mission de conseiller à l'emploi classique pour me mettre à temps plein sur ce projet-là.
D'accord, ok.
Voilà,
okay. Exactement. Et donc là, tu commences tu commences par quoi après?
Ben, on commence par confronter l'idée aux utilisateurs, en fait. Le propre, on va dire, d'un programme de start-up d'État, c'est de faire un produit, je vais dire, pour les utilisateurs et par les utilisateurs. Donc, nos utilisateurs finaux, ce sont les demandeurs d'emploi. Donc, on est allé à leur rencontre. Donc, on est allé dans des pôles emploi pour les rencontrer. On est allé aussi sur des salons, des forums pour rencontrer des gens qui se promenaient dans les allées à la recherche d'un emploi. Et puis, on confronte notre idée à leur perception. Voilà. Est-ce que cette idée-là peut vous convenir? On fait déjà des maquettes. Donc, ils peuvent tester dans la vraie vie. Et puis, ça permet de changer, on va dire, l'orientation qui est prise. Et sur des fonctionnalités, par exemple, qui semblaient évidentes, ben, effectivement, on voit que ça colle pas forcément avec le besoin de l'utilisateur. Donc, on essaye de faire quelque chose qui convient au plus grand nombre et pas à celui qui a eu l'idée ou au chef. Parce que quelquefois, on pourrait se dire, ben, tiens, j'ai mon chef qui me dit qu'il faut mettre le bouton rouge en haut à gauche. Ben, oui. Si les utilisateurs disent qu'il faut être vert en bas à droite, on va écouter les utilisateurs et pas le chef.
Oui. Et du coup, comment cette idée de réseaux sociaux pour retrouver de l'emploi, elle s'est transformée en cette espèce d'intelligence artificielle prédictive
En fait, elle s'est transformée essentiellement par le biais de la complexité à monter un réseau social.
D'accord.
Et donc, finalement, c'est avec le coach et le dev, le développeur, il est apparu que c'était beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que moi je ne pensais, et qui avait peut-être plus simple. Et le plus simple, en fait, c'est effectivement de se dire peut-être que en analysant le passé, on va pouvoir prédire le futur. Et qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Et là, effectivement, on s'est dit, c'est quand même de mettre à disposition ces résultats au plus grand nombre et de mettre le moins de freins possible à l'accès. Donc un service très très soft, très simple, pas de connexion obligatoire pour que effectivement la relation puisse se faire le plus simplement possible.
Et qu'est-ce que vous avez appris? Alors, tu parles d'aller rencontrer l'utilisateur. Qu'est-ce que vous avez appris de cette confrontation utilisateur qui a aidé à façonner l'idée telle qu'elle est aujourd'hui?
En fait, ce que j'ai appris, c'est que on a tous une perception différentes de la recherche d'emploi. Et puis, on a des a priori, en fait. Et même si on sait que j'ai raison sur une idée que je vais vous décrire, ce sera plus simple, en fait, elle est mal perçue par l'utilisateur et ça ne marchera pas. Donc, je vais prendre l'exemple concret d'un métier, en fait, qu'on a testé. On s'est dit, c'est Tommy, le premier développeur de la bonne boîte, et on s'est dit, on va tester sur le métier de développeur, où je vais pouvoir trouver un travail. Et là, Alors, je ne sais pas si on peut citer la marque, mais en tout cas, je vais peut-être poser un peu. Et là, du coup, on nous dit, bah, là où tu as le plus de chances de trouver, c'est chez Carrefour. Ah, bah oui, vous avez fait le même regard que Tommy. Comment ça, Carrefour? Mais moi, je suis développeur. Pourquoi j'irais chez Carrefour, en fait? Et là, ce qui se passe, en fait, c'est la perception que vous avez et de se dire, moi, je suis développeur et je m'imagine travailler dans une SS2I ou ainsi de suite. Voilà. On a eu la même chose, par exemple, avec les agents d'assurance qui ne se retrouvaient pas dans l'agence d'assurance. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi, bah, si y a une masse importante de développeurs et qu'en face, il n'y a pas suffisamment de travail dans des entreprises de développement, en 2015, c'était le cas, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, il faut bien trouver du travail. Oui. Et le raccourci est réel. Et bah, chez Carrefour, on vend des ordinateurs. Et puis, on se dit, bah, tiens, je vais embaucher quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en technique et il sera certainement le meilleur conseil pour vendre des ordinateurs. Sauf que vous voulez pas vendre des ordinateurs, vous voulez faire du code. Donc, vous dites, ça marche pas votre machine. D'accord. Ton service, il marche pas. Donc, ouais. On a dû changer ça et on a dû effectivement à pondérer les résultats en se disant, on sait que la majorité des embauches de développeurs, elle se fait chez Carrefour. Par contre, la part des développeurs embauchés chez Carrefour, elle est toute petite. Et donc, ce n'est pas un résultat attendu. Donc, on a pondéré ces résultats pour dire, finalement, le développeur, on ne doit pas lui dire d'aller chez Carrefour, parce que ce n'est pas là où il a le plus de chances de trouver un travail. Carrefour embauche, certes, des développeurs, mais ce n'est pas, le gros du volume. Et on imagine que le développeur, il va plutôt vouloir travailler dans une SS2I. Donc, on va lui remonter en priorité les résultats de SS2I. Après, on peut élargir, on peut dire, les résultats là, c'est ce que tu t'attends et c'est ce qui est susceptible de t'embaucher. Ça, on ne ment pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, est-ce que tu veux élargir à d'autres métiers, à d'autres horizons pas professionnels? C'est-à-dire, est-ce que finalement, tu te dis, pourquoi je n'irai pas chez Carrefour? Ça, c'est typiquement les utilisateurs qui nous ont fait changer la donne, parce que sinon, on avait trop de perceptions, c'était catastrophique. La plupart des entretiens qu'on faisait, les gens nous disaient, mais non, ça ne marche pas votre truc, en fait. Moi, je suis juriste et vous me dites d'aller chez Carrefour de nouveau. Ben non, ouais. Je ne comprends pas. Ouais. C'est pas le truc. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est typiquement.
Et comment vous avez découvert ça du coup?
Eh ben en entretien. En fait, typiquement, on fait tester l'outil et on laisse la personne saisir un métier. Et puis là, on se rend compte que quand on a affaire, je me souviens, on a eu une juriste et un journaliste et les résultats donnaient des résultats qui n'étaient pas attendus. On s'imagine pas effectivement que ce que je vous expliquais là. Et la réaction était immédiate. Il dit non mais en fait votre truc il marche pas. Moi je veux pas aller chez Carrefour donc je vais pas utiliser votre service. Ouais. Voilà, donc il a bien fallu qu'on trouve la parade pour tout de même permettre aux personnes d'être orientées vers les entreprises susceptibles de recruter et en plus là où elles s'imaginent où il y a ce métier-là en fait. D'accord. Donc il y a un gros travail à faire si on veut convaincre entre guillemets un développeur d'aller chez Carrefour. Il y a un travail beaucoup plus important à faire et c'est pas le boulot de la bonne boîte.
Et en amont de tester le produit avec les utilisateurs, est-ce que vous avez un peu sondé les utilisateurs sur de quoi ils avaient besoin exactement? Est-ce que vous avez fait des choses, des études auprès des utilisateurs sans produit avant, ou est-ce que vous êtes arrivé avec un produit et puis vous avez commencé à le changer en fonction?
Ça a changé. Au début de la bonne boîte, non, on ne faisait pas comme ça en fait. Au début de la bonne boîte, on n'a pas rencontré les utilisateurs avant de produire la maquette. Donc on est parti de l'idée, on est parti du constat que c'était difficile de faire un réseau social et que c'était certainement plus simple de mettre à disposition une liste et on a montré cette liste. Aujourd'hui, les startups d'État font un petit peu différent et on fait une phase d'investigation. C'est-à-dire qu'avant de créer le produit, on a l'idée, on s'imagine qu'il est difficile de trouver un travail par le biais de candidature spontanée. Donc on serait allé voir effectivement préalablement les utilisateurs pour dire c'est quoi pour vous la difficulté par rapport à l'accès à ce marché. Voilà, c'est d'accord. Comme ça qu'aujourd'hui on produit les nouvelles startups d'État à Pôle emploi et ailleurs. Mais à l'époque, en 2015, non, c'était pas le cas.
D'accord, ok. Donc vous arrivez avec votre prototype. Combien de temps se passe entre le début du programme ou le fait que tu sois détaché à temps plein sur le projet et au fait la première mise à disposition pour les utilisateurs?
Bon, c'est très rapide. J'ai commencé un 1er mai, donc le lendemain en l'occurrence, le 2 mai, je me souviens très bien, et fin juin on avait le prototype qui était prêt, qui était testé en fait, hein, c'est en 5-6 semaines on est capable de livrer. Et là en plus c'était un peu plus long que d'habitude puisqu'il y avait une partie qui était sur la recherche de l'algorithme. Est-ce que ça marche? Parce qu'il faut tester. Donc sur cette période-là, par exemple, on a fait tourner l'algorithme et puis j'ai vérifié dans la vraie vie, j'ai même appelé des entreprises pour dire voilà qui je suis, est-ce que vous avez des embauches de prévues? Et puis on regarde aussi les signaux faibles. Est-ce que, par exemple, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, on a des informations comme quoi cette entreprise serait susceptible de recruter? Et oui, donc ça marchait. Donc à partir du moment où on a pu vérifier que ça marchait, on a pu mettre le produit dans les mains de l'utilisateur. Donc c'est pour ça que c'était long. Mais sinon, ça peut aller, sans exagérer, en un mois, vous avez produit votre prototype et informatique qui marche. Et en 10 jours, vous avez fait vos dessins. Alors, j'exagère, hein, on ne prend pas la feuille et le crayon aujourd'hui, on est sur Internet. Mais vous avez votre dessin qui est testable directement auprès des utilisateurs. C'est très, très rapide.
Et, c'est super rapide, effectivement.
Exactement, ouais.
Et je me pose la question, donc... Parce que cette initiative, ok, mais elle utilise les données de Pôle emploi. Et ces données, est-ce qu'elles étaient accessibles directement?
Oui, en fait, on utilise les données de l'URSSAF. L'URSSAF, donc, ce n'est pas de Pôle emploi, effectivement. Ouais. Et Pôle emploi a accès à ces données de l'URSSAF. D'accord. Donc, elle est capable, donc Pôle emploi a accès à toutes les déclarations d'embauche de tout le monde, en fait. D'accord. Donc, grosso modo, c'est 40 millions de données par an. Sur la première année, on a fait sur 3 ans. Donc, vous voyez, avec 120 millions de données, vous avez un jeu de données suffisamment gros pour avoir des résultats qui sont significatifs. Voilà. Plus vous avez de données, plus c'est significatif.
Donc, vous avez sorti toute la base de données. Et puis, à partir de là, vous avez fait construire un algorithme en disant...
Exactement. On a testé plein de choses. Et puis, on essaye aussi de rajouter des nouvelles données. Par exemple, ça n'a pas fonctionné. Je me souviens, à l'époque, on s'était dit, est-ce que si on introduit dans l'algorithme, par exemple, les dépôts de permis de construire. D'accord. Est-ce que si on introduit ça, ça va permettre de détecter pourquoi pas, sur ce territoire-là, il y a plus de dépôts de permis de construire qu'un autre. Est-ce qu'il va y avoir plus d'embauches, du coup, dans les entreprises du bâtiment? Ça, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'effort produit, il fait que le gain, il est minimum. Le simple fait d'analyser les recrutements du passé, on a un taux de prédiction qui est juste à 80%. Donc, c'est énorme. Donc, si l'effort à faire pour ajouter une donnée, il est trop important et qu'on passe de 80 à 81%, pour vous, ça ne change rien, en fait. Hein.
Oui.
Voilà. Si on passait de 80 à 90 ou 95, on se dirait pourquoi pas. Mais si on reste aux alentours de 80, il n'y a pas d'intérêt à modifier l'algorithme, en fait, qui fonctionne très bien.
Alors 80%, c'est-à-dire que sur une boîte identifiée qui va embaucher tant de personnes sur tel poste, à 80%, vous avez raison, et c'est effectivement,
voilà, effectivement, 80%, c'est dans les deux cas. C'est-à-dire que j'ai été capable de prédire qu'elle n'embauchait pas ou j'ai été capable de prédire qu'elle embauchait.
D'accord.
Voilà, c'est ça, d'accord, en fait. Hein. Donc, ouais. Exactement.
C'est génial. Alors, j'imagine, maintenant, je me reprojette un peu, donc 2 mois, vous construisez le prototype, ouais, etc. Et après, de quelle façon évolue le prototype et comment vous le faites évoluer sur le reste, sur la durée
Là, c'est effectivement ce que je disais. C'est à 2 mois, on avait le service qui disait « Toi, développeur, va chez Carrefour. Ouais. » Et puis, au fil du temps, effectivement, on améliore et puis on travaille aussi le parcours utilisateur, en fait. Ouais. C'est est-ce qu'il ne se perd pas ? L'idée, effectivement, c'est que le service soit le plus simple et soit plus accessible numériquement, parce que on sait qu'on n'est pas tous égaux devant le numérique et qu'il peut y avoir des difficultés à appréhender l'outil. Ouais. Donc, nos tests ont servi à ça, à la fois à vérifier que le résultat ne perturbait pas la personne qui cherchait du travail, et le parcours qu'elle faisait était suffisamment fluide pour qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Et ça prend un peu plus de temps, hein, et après il faut naturellement, j'allais dire, passer devant le juge de paix, à savoir ce qu'on appelle le comité d'investissement à Pôle emploi, qui va dire voici vos travaux des 4 derniers mois, puisqu'on est passé 5 mois après le début du projet. On a pu faire état de nos travaux et puis leur dire voilà ce qu'on a comme résultat. Et c'est là qu'ils nous ont donné le go pour dire maintenant on peut l'ouvrir au grand public. Là, vous l'avez ouvert sur un petit périmètre pour le tester. Maintenant, on va pouvoir étendre son ouverture.
D'accord. Donc après ces 5 mois, il y a eu une présentation pour le plan, en disant oui, on valorise. Et donc là, vous avez eu une autorisation à diffuser ça de manière plus large.
Exactement, avec l'embauche de nouveaux développeurs, un second développeur, et puis une chargée de déploiement, effectivement, pour diffuser le produit, puisque tout produit qu'on sort, s'il n'y a pas un support communication derrière, un accompagnement à la diffusion, ça ne marche pas tout seul, qu'en fait. Hein.
Exactement, voilà. Il n'y a pas d'usage. Quoi.
Ah, exactement, tout à fait.
Et donc là, vous êtes comme ça, vous avez réussi à avoir 3 millions de visiteurs, c'est pas au total ou
C'est 3 millions par an.
Par an,
voilà.
D'accord.
Donc okay. 3 millions depuis 2018, on a 3 millions par an de visiteurs. Et puis également, ce qui est important dans les startups d'État, c'est deux choses, à mon goût, à mon avis, c'est le code est ouvert. Donc là, ça ne vous dit rien, mais en fait, n'importe qui peut réutiliser le code de la bonne boîte. Alors naturellement, il n'y aura pas les données nominales nominatif dessus. Mais si quelqu'un voulait faire quelque chose qui est proche de la bonne boîte, ben, notre code, il est gratuit, il est open source, comme on dit, on peut le réutiliser. Et le second, c'est que tous nos résultats, ils sont disponibles en API. Donc là aussi, c'est un petit peu technique. Ça veut dire que, concrètement, si j'ai un produit concurrent, et en l'occurrence, je vais citer un produit qui n'est pas concurrent, c'est celui de Pôle emploi, quand vous consultez les offres de Pôle emploi, vous êtes capable, effectivement, de dire « Donne-moi les bouchers dans le 3e à Paris, vous aurez les offres d'emploi. » Et puis, il va récupérer par le biais donc, de système d'API les résultats de la bonne boîte et dire sur le service qui affiche les offres d'emploi, bah, « Tiens, si tu veux, en plus, il y a 15 entreprises qui sont susceptibles de te recruter. » Ça vaut peut-être le coup de leur envoyer une candidature spontanée. Donc, il y a des services, je sais, en région, qui réutilisent les données et les résultats de la bonne boîte pour l'afficher. Et ça, il n'y a pas de rupture de parcours. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, alors, pour voir ces 15 entreprises, va sur la bonne boîte. Non, quand je clique dessus, je reste dans mon même environnement, je ne suis pas dépaysé et je vais pouvoir candidater. L'objectif, souvent, des startups d'État, c'est effectivement d'aider le plus grand nombre à résoudre leurs difficultés et, si possible, de ne pas les perdre. Au début, on est obligé. On ne peut pas dire, si on n'a pas convaincu que le service a un impact et de la valeur, on ne va pas être capable de convaincre Pôle emploi de mettre en avant les bonnes boîtes. Une fois que ça s'est passé, eh ben, c'est plus facile et puis c'est naturel. Et je dirais qu'à la limite, le souhait ultime, c'est que la bonne boîte n'existe plus. C'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin d'avoir l'environnement labonneboîte.pôleemploi.fr pour y accéder, mais que le service soit diffusé partout et que les gens ne se rendent même pas compte en fait, qu'ils utilisent la bonne boîte.
Oui, parce qu'à travers l'API, ils vont y avoir les données.
Et exactement, ouais. Tout à fait.
C'est marrant cette philosophie du coup, c'est peut-être le côté un peu service public, de rendre justement ça ouvert au maximum, que ce soit utilisé. Alors justement, qui est-ce qui utilise cette API aujourd'hui à part Pôle emploi ?
Ben, il y a effectivement Pôle emploi, il y a d'autres startups d'État de Pôle emploi, mais aussi de la DINUM. Il y a aussi je sais qu'il y a des régions qui l'utilisent, la région PACA par exemple, ils ont un service aussi dédié à la recherche d'emploi, et ils réutilisent les données de Pôle emploi. Il y a aussi un nouveau service qui est issu de la bonne boîte et qui maintenant est en pleine expansion, c'est la bonne alternance. Et donc, il y a eu un service, on va dire une petite sœur, mais là, spécifique à l'alternance. Et là, c'est pareil, il y a sa propre API qui est développée et qui est réutilisée par pas mal de centres de formation et de diffuseurs d'offres dans l'alternance qui réutilisent ces données-là. Donc, c'est diffusé un peu partout, en fait.
Qui a même pu réutiliser une partie du code que vous avez développé.
Si vous voulez, oui, exactement. Ouais,
donc, ça a été cloné, cloné et copié
exactement.
En interne.
Exactement. Tout à fait, exactement. Ouais, c'est ça.
Ouais, super. Et je voudrais revenir sur le côté un peu Pôle emploi qui évalue le projet et qui dit on y va pas.
Ouais.
Et est-ce que le fait d'être détaché dans ce programme Betagouv, est-ce que ça est-ce qu'il y avait des tensions avec un Pôle emploi ou est-ce qu'au contraire ça se passe comment ça en fait?
Ouais, c'est que c'est alors on peut pas forcément parler de tension, mais on peut parler de méfiance en fait. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes accompagné par un coach, par un développeur, vous avez votre sponsor de Pôle emploi, en l'occurrence c'est toujours le directeur général de Pôle emploi. Par contre, des statisticiens, des informaticiens vous regardent un petit peu d'un drôle de regard quoi, en fait, hein, parce que vous n'êtes pas du métier et vous arrivez avec une idée et puis vous dites c'est qui lui ? Donc au début, il a fallu un petit peu faire sa place, en fait, rassurer pour dire mais non, on va pas prendre votre place.
Et tout ça, ça se passait dans les locaux de Pôle emploi où tu travaillais déjà ?
Déjà à l'époque, il y avait le télétravail, si je puis dire. C'est-à-dire que je suis resté dans mon environnement local. C'est-à-dire que moi, je travaillais au Pôle emploi à Yange, donc c'est en Moselle. Et je restais dans mon Pôle emploi à Yange. Je venais une fois par semaine à Paris, dans des locaux à Paris, au Lab, dans le 19e. Et puis là, effectivement, on rencontrait, en fonction des thématiques, on fait appel à des experts. Donc, on a fait venir les statisticiens de Pôle emploi, on a fait venir des développeurs, ainsi de suite, on a discuté. Hein, et là, effectivement, au début, il y avait un petit peu de méfiance, en disant, bon, est-ce que c'est pas un simple jouet de Pôle emploi pour se donner bonne conscience, pour dire on donne la parole aux conseillers? Mais non, en fait, on n'est pas là pour jouer, on est là pour vraiment avoir un impact sur le retour à l'emploi. Ouais. Et puis, on fait pas contre vous, on fait avec vous, en fait. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, cette méfiance-là, en fait. Mais comme tout nouveau service, au début, il y a les sceptiques et puis il y a ceux qui font ça à fond.
C'est quoi le truc que tu as bloqué le plus ou le qui a été le plus compliqué, par exemple? Parce qu'avoir les données de l'URSSAF, c'était simple?
Ça n'a pas été très compliqué. Il y a eu effectivement un peu de friction technique au tout début. Parce que un des concepts aussi des startups d'État, c'est de laisser le développeur choisir les technologies qu'il souhaite. Au début, donc, on dira, mais nous, à Pôle emploi, on travaille plutôt sur ces technos-là, donc c'est dommage, patati patata, mais ça, c'est aussi passé. Et puis, il y avait aussi un peu de réfraction au niveau métier, en tout cas au niveau des stats. Je me souviens au début en disant si on pouvait le faire, on l'aurait fait, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'a pas eu l'idée, en fait, tout simplement. Donc, je ne leur jette pas la pierre, en fait. Hein, mais souvent, et c'est aussi la force d'une start-up d'État, on se donne le droit de rater. D'accord. C'est-à-dire que quand on a un gros service, c'est peut-être plus compliqué de se dire tiens, j'ai une idée, je vais la tester. Si ça ne marche pas, je la mets à la poubelle, je recommence. C'est peut-être plus difficile à faire passer comme message. Par contre, une start-up d'État avec 3 personnes, si jamais ça ne marche pas, ça a coûté 6 mois de salaire, c'est pas négligeable, mais c'est pas très grave, en fait. Donc c'est vraiment le propre des startups d'État de se dire on veut un service qui ait de l'impact. S'il n'y a pas d'impact, on dit on s'est trompé de voie, c'est pas grave, on a testé, et si ça marche, c'est le jackpot entre guillemets pour le retour à l'emploi. Si ça marche pas, on passe à autre chose.
Ouais, ouais. Ouais. Cette vision des choses, c'était possible parce que c'était isolé et un petit peu mis sous un programme, ce bêta.
Oui,
exactement.
Je pense que il y a eu effectivement un fort accompagnement de la DINUM sur ce projet, en l'occurrence de Pierre Pézziardi, qui était à l'origine des startups d'État. Il y a eu une forte adhésion de Jean Bassère à ce discours et à cette volonté de produire des services différemment. Et grâce à son sponsor fort, en fait, ça a fonctionné, quoi, en fait. Si je pense honnêtement que s'il n'y avait pas le sponsor fort du directeur général, ça n'aurait pas fonctionné comme ça fonctionne aujourd'hui.
Pourquoi ? Parce que ça serait pris des bâtons dans les roues.
Parce que effectivement, quand le chef dit qu'il faut y aller, c'est plus facile d'y aller. Si lui serait sceptique, c'est être plus compliqué de convaincre toutes les troupes.
Ouais.
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 C'est clair.
Super. Et toi, alors, conseiller Pôle emploi, monter la start-up, etc., qu'est-ce que tu en tires de cette évolution que tu as eue et comment ça t'a changé, tu penses ?
Ça a changé mon quotidien, naturellement, hein, parce que mon objectif depuis... je travaille à Pôle emploi depuis 1997, donc ça fait quand même un bout de temps, et j'adorais mon métier, et ma principale préoccupation, et c'est toujours mon leitmotiv tous les matins, c'est est-ce que mon travail va permettre à quelqu'un de trouver un travail ? Si j'ai pas ça, en fait, je me dis finalement je sers à rien, quoi, en fait. Voilà. Donc ça, c'était mon leitmotiv. Déjà en tant que conseiller, donc rencontrer des gens, les conseiller, les orienter, c'était mon quotidien et j'aimais faire ça. Et là aujourd'hui, j'ai pu passer à l'échelle, en fait. C'est-à-dire que certes, je rencontre plus les demandeurs d'emploi en face à face et je les aide plus individuellement, mais grâce à la bonne boîte, j'aide. On vous l'avait dit, il y a 120 000 personnes qui ont trouvé du boulot et puis il y a 3 millions de personnes que je peux accompagner en disant vous serez plus seul dans votre recherche d'emploi à vous dire j'envoie mon CV au pif et puis je vais attendre les retours négatifs. Non, grâce à la bonne boîte, on peut les aider. Il y a moins de déceptions, il y a plus de retours à l'emploi. Donc là, ça a permis de passer à l'échelle, quoi, en fait. Hein.
Ouais, ouais. Tu dis j'ai déjà plein de personnes, j'ai plus d'impact.
Exactement. Et donc je reste dans ma philosophie de dire j'aide les gens à trouver du boulot. Donc certes, quand je fais des tests utilisateurs, quand on discute avec un développeur, un designer ou autre de fonctionnalité, on a l'impression qu'on s'éloigne de mon objectif d'aider les gens à trouver du travail. Mais au final, c'est pour leur livrer un produit qui va les aider à trouver du boulot. Donc moi, je m'éclate, en fait.
Ouais, ouais. Ouais. Et maintenant, tu continues à développer le produit ou tu es retourné conseiller ou...
Alors, en fait, je continue à développer un autre produit qui s'appelle les emplois de l'inclusion. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je suis arrivé, entre guillemets, au bout de l'aventure de la bonne boîte. Parce qu'à un moment, quand même, le produit, il doit continuer à vivre et puis il doit passer à l'échelle, il doit passer à un autre mode de fonctionnement. Donc, il a été repris par les services de Pôle emploi qui le gèrent en direct. Voilà. Et puis, j'ai quitté Pôle emploi, mais je travaille toujours pour une mission de Pôle emploi, en fait, qui est d'accompagner les gens à trouver un travail dans l'insertion par l'activité économique. Donc là, c'est un secteur d'activité, c'est une niche, mais qui est très importante. Il y a 5000 entreprises en France qui sont là pour aider les gens à retrouver un travail dans des entreprises ordinaires. Et l'objectif, c'est Vous allez travailler pour moi. Donc, je suis une entreprise, par exemple, un chantier d'insertion qui fait de la rénovation de bâtiments. Mais en plus du travail, je vais vous accompagner socialement pour résoudre vos problèmes, par exemple, de mobilité, d'accès au logement ou autre. Parce qu'on voit bien que ça, c'est un frein à vous aider à retrouver un travail classique. Donc, je vais vous accompagner là-dedans. Et il y avait des difficultés dans le recrutement. Et donc, j'ai accepté cette mission de produire un service numérique qui facilite la mise en relation de personnes éloignées de l'emploi avec ces entreprises qui sont là pour les accompagner. Donc, je continue toujours dans mon kiff, c'est d'aider les gens à trouver du boulot.
C'est ça. Mais maintenant, tu ne le fais plus en tant que conseiller, mais tu le fais en créant des services qui permettent...
Exactement. Mais j'ai toujours un contrat à Pôle emploi. En fait, hein, je ne suis plus salarié, effectivement, de Pôle emploi. Je suis Pôle emploi m'a accepté de mettre en disponibilité pour travailler sur ce projet qui, auparavant, en fait, c'était Pôle emploi qui était à la charge de mettre en œuvre les contrats dans l'insertion pour l'activité économique. Et puis, il y a eu un lancement de ce qu'on appelle le pacte ambition IAE avec une réforme qui a voulu effectivement un petit peu enlever la charge administrative à Pôle emploi, parce qu'il y avait une grosse charge administrative sur la délivrance de ces fameux contrats. Et donc, on l'a numérisé. Donc, c'est ce que je fais. Moi, je numérise, le contrat pour faire très court, et je facilite la mise en relation. Et Pôle emploi, du coup, a pu recentrer son travail sur l'accompagnement des gens à trouver un travail.
Et là, tu ne fais plus partie du programme Beta
Group. Si, tout à fait. Les emplois de l'inclusion, donc, qui fait partie d'un plus vaste projet qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, est toujours incubé par BetaGouv, en fait. Donc, je suis toujours, je suis toujours dans l'environnement de BetaGouv. Je n'ai pas quitté BetaGouv.
D'accord, sur un autre projet, d'accord.
Sur un autre projet, exactement.
Et la bonne boîte, c'est maintenant qu'il vit sa vie, etc. Et est-ce que l'intégration avec les autres services de Pôle emploi, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça transforme un petit peu la façon dont Pôle emploi fait les choses?
Ça, notamment, je vous ai parlé de la page où on recherche les offres d'emploi, et j'ai vu que dernièrement, ils ont modifié l'intégration. Donc, ça s'intègre de plus en plus. Donc, de plus en plus, effectivement, le marché caché vient se mélanger avec le marché visible, en fait. Auparavant, il y avait encore un peu de distinction. Il y a de moins en moins, en fait. Et je pense qu'à terme, on va arriver où je vais mettre un métier et une ville, et j'aurai mélangé et certainement des opportunités d'emploi, on va dire, déposées par un employeur, et puis des opportunités de candidature spontanée. Oui. Donc, ça SM bien.
Ouais, rendre le marché caché visible.
Visible, exactement. Bah,
tu me parlais de cette histoire de boîte qui voulait recruter, mais c'était...
Exactement, c'était un an après le lancement du projet, en fait. Hein, c'était une entreprise de formation. Et donc, on a mis en place, parce que c'était aussi une des craintes de se dire peut-être que les entreprises qu'on met en avant sur la bonne boîte vont se plaindre parce qu'elles ne recrutent pas. Et donc, on a mis un service pour dire vous avez une difficulté ou vous estimez ne pas devoir être là, bah, contactez-nous, en fait. Donc, il y avait une adresse mail, les gens nous contactaient. Et donc, j'ai été contacté par ce centre de formation pour dire on ne comprend pas, vous dites qu'on va chercher un formateur, mais ce n'est pas vrai, on n'a pas besoin de formateur. Donc, est-ce que vous pouvez retirer notre entreprise? Il n'y a pas de souci. Si vous ne voulez pas être sur la bonne boîte, on ne vous demande pas votre avis pour y être. Par contre, si vous nous dites « je ne veux pas y être », on vous retire. Donc, on a retiré la boîte. Et puis, un mois après, elle me renvoie un message. Et donc, je l'ai au téléphone pour dire « écoutez, en fait, vous aviez raison. Je viens d'avoir la commande de mon patron qui recherche un formateur. Donc, est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, mon entreprise sur la bonne boîte ?» Voilà. Donc, on avait prédit avant même elle qu'elle aurait des besoins.
C'est génial.
Et la prédiction, c'est avérée juste. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est une belle réussite.
Bah super Eric. Super aventure, ouais, avec et puis surtout, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est que ça a eu un vrai impact et en fait sans ce mode start-up et développer une idée comme ça, tout ça n'aurait pas vu le jour parce que le train-train quotidien serait resté et puis l'impact il est durable parce que ça commence à être réintégré dans les services et extrêmement ouvert aussi. Ouais.
C'est important je pense pour l'intrapreneur, de manière générale, pas forcément celui de Pôle emploi, pour l'intrapreneur, que son produit ait un réel impact, en fait, et que ce ne soit pas là ou pour qu'il se fasse plaisir ou pour faire plaisir à sa direction, en fait. Il faut vraiment, à mon avis, pour les futurs entrepreneurs, ceux qui ont envie de se lancer peut-être et qui nous écoutent, de se dire quel va être l'impact de mon produit? Donc, quel est déjà le problème que je veux résoudre? Et comment je vais mesurer que ce problème, j'ai réussi à le résoudre, en fait? Quel est l'impact réel? S'il n'y a pas d'impact... Bah, en tout cas, moi, j'y trouve pas plaisir, en fait. Hein. Je veux vraiment aider les gens à trouver du boulot.
Ouais. Bah, super. Écoute, merci beaucoup, Aymeric. Tu auras un petit mot pour la fin?
Eh bien, j'ai envie de dire, si vous travaillez pour une entreprise publique ou même privée, parce qu'il y a aussi des programmes d'entrepreneuriat dans le privé, s'il y a un programme qui existe déjà, ben, allez-y, quoi, foncez. Il ne faut pas rester sur ses gardes et se dire, ben, ce n'est pas pour moi. Non, tu as une idée, elle n'est peut-être pas tout à fait mûre, mais si l'idée est bonne, ben, il va la défendre. Et puis, s'il n'y a pas de programme d'entrepreneuriat, ben, il ne faut pas hésiter de pousser la porte de son hiérarchique pour dire, tiens, j'ai une idée, est-ce que vous connaissez l'entrepreneuriat ? Peut-être qu'on pourrait faire ça chez nous. Donc, ouais. Lancez-vous.
Okay.
Osez.
Ouais. Plus d'oser.
Exactement.
Merci.